Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia Devitt.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette rubrique éphéméride de l'émission Un jour dans l'histoire. Le 2 avril 1810, Napoléon épousait Marie-Louise. Après avoir vaincu l'Autriche, il épousait la fille de l'empereur qu'il venait de battre, qui se trouvait être aussi la petite nièce de Marie-Antoinette. Cette union avec l'Autriche était cruciale, elle devait conduire Napoléon sur le chemin de la paix, mais surtout elle devait lui assurer un héritier. En cette année de bicentenaire, plusieurs manifestations reviennent sur cet événement politique et romanesque. Le château de Compiègne consacre une exposition jusqu'au 19 juillet intitulée « 1810, la politique de l'amour ». Le château de Fontainebleau présente l'album du mariage jusqu'au 2 juillet. Et enfin, un colloque organisé par la Fondation Napoléon s'attache à dresser un tableau de l'année 1810 sous tous ses aspects politiques, diplomatiques, culturels. Canal Académie se devait de revenir sur ce mariage, c'est ce que nous vous proposons dans cette émission, avec notre invité David Chantran. David Chantran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, rédacteur en chef de la revue Napoléon Ier et du souvenir napoléonien. Vous allez donc nous parler des cérémonies du mariage, thème de votre communication au colloque dont je viens de parler. Alors tout d'abord, on va peut-être replacer ce mariage dans son contexte. Fin 1809, Napoléon se décide enfin à se séparer de Joséphine dans le but premier d'avoir un enfant. Comment s'arrête-t-il au choix de Marie-Louise ?
Ah, le choix de Marie-Louise, il ne se fait pas tout de suite en direction de l'Autriche. Dans un premier temps, Napoléon, pour asseoir l'entente qu'il a avec les Russes et notamment avec Alexandre, vous vous souvenez, 2 ans auparavant, en 1807, hein, là on parle de décembre 1809, au moment du divorce avec Joséphine. Mais en 1807, il y a eu cet accord à Tilsit, qui a scellé l'alliance entre l'Occident et l'Orient, hein, donc cette Europe qui ne dit pas son nom encore, mais qui est une sorte de Yalta, où on s'est un peu séparé avec cette union. Eh bien, on va sceller cette union entre les Français et les Russes autour d'un mariage, comme on le faisait régulièrement. Et lorsque Napoléon décide donc de divorcer de Joséphine, il le fait déjà à la fin du mois de novembre, et puis la cérémonie officielle a lieu le 15 décembre 1809, eh bien, les premières discussions vont s'engager avec les Russes. Et puis, on se rend compte que finalement, eh bien, la cour russe, la cour du tsar, n'est pas vraiment chaude à offrir cette jeune fille de 15 ans, puisque la sœur d'Alexandre a 15 ans à peine, donc elle n'est pas encore nubile. Et Napoléon montre bien que c'est tout de même, excusez-moi l'expression, mais c'est lui qui l'emploie, c'est d'un ventre dont il a besoin. On l'a dit tout à l'heure, il veut un fils, il veut un héritier, et c'est lui qu'il peut en avoir. C'était la grande discussion qui avait lieu avec Joséphine, hein, qui allait faire des cures à Plombières pour essayer d'avoir cet enfant tant attendu. Eh bien, il se rend compte que lui peut être père, puisqu'il a été père du comte Léon, avec Éléonore de Lunel de la Plaigne, un peu plus tôt, et puis surtout, de ce fameux enfant de ses amours avec Maria Walewska, qui va naître justement quelque temps au moment du mariage avec Marie-Louise. Donc, il sait qu'il va être père, il en est confirmé, et donc cette union avec une princesse, alors russe dans un premier temps, et puis on va se rendre compte que finalement ça va être une autrichienne, eh bien ça doit asseoir sa dynastie, cette quatrième dynastie qui, depuis 1804, est installée en France.
Donc comme vous venez de le dire, finalement, ça ne va pas être la Russie mais l'Autriche, parce que la cour russe a été en effet très frileuse. Quelle va être la réaction de la cour autrichienne ? Elle va se montrer finalement prête à coopérer.
Elle va se montrer prête à coopérer pour deux raisons. La première, c'est que le 14 octobre 1809, à l'issue de la campagne, de ce qu'on appelle la campagne d'Autriche, les Français ont signé un traité à Schönbrunn, donc symbole fort, avec les Autrichiens pour dire voilà, maintenant on va sceller cette amitié nouvelle, on s'est entendu cette fois-ci sur un traité clair et simple, et puis surtout, les armes ont parlé, donc maintenant, mettons fin à tout cela et entendons-nous donc pour une union fraîche. Et cette union fraîche, elle va se faire autour d'une princesse qu'on va offrir. Alors il faut s'imaginer quand même que cette jeune femme, Marie-Louise, ça c'est la deuxième raison, elle va être offerte en gage. Et elle est née en 1791, on peut parler un peu d'elle quand même, elle est née en 1791, donc à peine avait-elle 4 mois, que déjà la France était en guerre contre l'Autriche. Cette France de Valmy, cette France de la Révolution. Donc, il faut bien s'imaginer que ce Napoléon qu'on va lui offrir comme époux, elle va bien sûr s'y conformer, mais cet époux qu'on lui offre, c'est un époux qui est l'exècre. C'est l'ogre corse, c'est celui qui a battu son père, François Ier, à Austerlitz, c'est celui qui est l'héritier de la Révolution, c'est celui vraiment qui est le personnage honni par excellence. Donc, cette double entente, à la fois du traité de Schönbrunn de 1809 et à la fois de ce mariage avec Marie-Louise, va sceller l'union et va surtout transformer les accords et les alliances auparavant qui étaient plutôt faites autour de la Russie, et bien vont se faire maintenant avec l'Autriche.
Les choses vont aller vite, puisque comme je le disais tout à l'heure, Napoléon divorce officiellement de Joséphine, la cérémonie officielle a lieu fin décembre. Berthier, prince de Wagram, tout nouvellement prince de Wagram, est envoyé à la cour d'Autriche, quitte Paris le 22 février. Napoléon va vite. Quelle est la suite des événements ?
Il va très très vite. Il va très très vite parce que Berthier, qui est donc, comme vous l'avez dit, prince de Wagram, mais ne va pas le porter quand même pour ne pas humilier la cour autrichienne lorsqu'il va se présenter à Vienne, va donc présenter officiellement la demande de mariage et va offrir en présent plusieurs diamants pour montrer à la fois le caractère bienveillant de l'empereur des Français et puis également que ce mariage doit se faire sous les meilleurs auspices. Le mariage va se faire donc en deux temps. Mariage par procuration à Vienne, et ensuite un mariage dont on va parler par la suite, 1er et 2 avril, donc à Paris. Enfin, à Saint-Cloud et ensuite à Paris. Le mariage par procuration, on dit toujours que c'est Berthier qui représente l'empereur. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Le mariage se fait avec, pour représentant de l'empereur, l'archiduc Charles, qui est le grand ennemi, si on peut dire, l'ancien ennemi de Napoléon, ou du moins son concurrent direct sur le champ de bataille, et son adversaire de l'époque montre bien que cette fois-ci, on est passé sur une autre ère, une ère faite de paix et de prospérité. Et donc, le mariage va avoir lieu donc, à Vienne, à l'église des Augustins, et cette union va se faire avec une jeune fille, donc Marie-Louise, qui a à peine 18 ans. Et pour que l'union soit vraiment la plus courtoise possible, on va le faire donc en présence des Français de l'entourage de Berthier. Et on va surtout unir 12 anneaux, parce qu'on ne sait pas vraiment le tour du doigt de Napoléon. Donc on va bénir ces 12 anneaux qui seront ensuite portés à Paris. Et pour bien montrer qu'on offre un vaste choix et qu'on ne voudrait pas froisser la cour française, eh bien on le fait aussi avec ce symbole fort.
Nous pouvons peut-être préciser dès maintenant qu'en fait tout ce cérémonial est repris d'un cérémonial d'Ancien Régime.
Complètement. Complètement. Autant Napoléon, pour le sacre qu'il avait fait à Paris, son sacre et son couronnement avec le pape, avait fait un élément un peu de briquet de broc, où il avait un peu amélioré les choses à son image, autant là, il se conforme vraiment à un mariage d'Ancien Régime. Alors, il y a ce symbole fort aussi, hein, dont on n'a pas parlé, enfin, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est qu'il est la petite nièce de Marie-Antoinette. Et donc, quelques 17 ans après la mort de Marie-Antoinette sur l'échafaud, avoir une princesse autrichienne qui devient la nouvelle impératrice des Français, c'est tout de même un appel fort et surtout un élément qui peut quand même un peu heurter les souvenirs des républicains et des révolutionnaires.
Surtout que le parallèle va aller plus loin, parce que donc le mariage par procuration a lieu le 11 mars à Vienne. Le 13 mars, Marie-Louise quitte sa famille et son pays. Le 16 mars, c'est l'échange
à Braunau,
où Marie-Louise est remise et c'est Caroline, la sœur de Napoléon, qui la réceptionne. Et après, il y a la fameuse rencontre normalement de Compiègne. On va voir que ce n'est pas tout à fait ça. Mais donc Napoléon reprend exactement le cérémonial qui avait été utilisé pour Marie-Antoinette.
Complètement. Pour ceux qui ont vu le film récent de Marie-Antoinette de Sofia Coppola, on va installer trois petites pièces temporaires en bois où la jeune princesse autrichienne, donc archiduchesse, entre dans la première pièce, se défait entièrement de ses vêtements. Dans la seconde, elle est accueillie donc par les Français et ensuite elle se revêt entièrement des vêtements qui ont été apportés par la cour impériale française. Et lorsqu'elle rentre dans la troisième pièce, elle est cette fois-ci entièrement française puisque Braunau se trouve à la frontière entre la Bavière, qui est donc l'alliée de la France, et l'Autriche. Donc cette fois-ci, elle est sous le giron vraiment et sous l'autorité française. Elle est entièrement française et donc toutes les personnes qui l'entouraient, sauf une personne qui est sa dame d'honneur, et puis même son chien, lui sont enlevés. Donc vous voyez, elle est vraiment cette fois-ci entièrement française, comme vous le disiez tout à l'heure, pour Marie-Antoinette.
Son arrivée est prévue le 28 mars à Compiègne, mais que se passe-t-il entre-temps ?
Alors entre-temps, elle est accueillie à Strasbourg, comme Marie-Antoinette, évidemment. Ensuite, une réception a lieu aussi à Nancy. Et à Soissons, on a prévu une cérémonie officielle au cours de laquelle l'empereur et l'impératrice, la nouvelle impératrice, vont donc faire pour la première fois connaissance. Alors il y a une petite chose que je voulais vous lire, mais très courte. C'est la première lettre que Napoléon envoie à Marie-Louise. C'est juste une petite remarque pour montrer un petit peu dans quelle disposition se trouve l'empereur Napoléon Ier à cette époque. Il lui écrit le 23 février 1810 en lui écrivant « Ma cousine, les brillantes qualités qui distinguent votre personne nous ont inspiré le désir de la servir et honorer ». Donc on voit déjà que Napoléon est un peu impatient. Je poursuis en distinguant votre personne nous ont inspiré donc le service, le désir de la servir et honorer, en nous adressant à l'empereur votre père pour le prier de nous confier le bonheur de votre Altesse impériale, pouvons-nous espérer qu'elle agréera les sentiments qui nous portent à cette démarche ? Eh bien, ces sentiments qui nous portent à cette démarche, eh bien Napoléon va les montrer avec beaucoup de fougue, puisque alors que la cérémonie
et d'impatience,
puisque cette cérémonie qui devait avoir lieu à Soissons va se dérouler en réalité un peu plus tôt, Napoléon va prendre les devants, va se présenter quasiment incognito et va monter dans le carrosse de l'impératrice sans que les présentations soient faites et va donc passer devant Soissons à bride abattue et va se porter à Compiègne, donc une journée plus tôt que prévu, donc le 27 mars 1810.
David Chantran, je vous propose maintenant d'une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes toujours en compagnie de David Chantran, avec lequel nous évoquons le mariage de Napoléon et Marie-Louise. Nous avons quitté Napoléon qui vient de découvrir sa Marie-Louise un peu plus tôt que prévu. Il a un peu bousculé le cérémonial. Quelle est la suite des événements ? Quel est le cérémonial prévu ? Puisque nous rentrons dans les cérémonies vraiment officielles, les fastes impériales sont lancées.
Alors déjà, on peut parler du lendemain de cette rencontre avec Marie-Louise. Dès le lendemain, Napoléon qui a demandé si le mariage était bien officialisé, puisque mariage par procuration, il y avait eu lieu. Donc, il a demandé à Fesch, quel cardinal qui est de son oncle, si tout était bien conforme. Et donc, il s'est empressé de rejoindre Marie-Louise dans sa chambre à coucher, ce qui ne se fait pas, hein, évidemment, puisque normalement, on doit attendre que le mariage religieux, officiel, qui doit avoir lieu le 2 avril, ait eu lieu. Eh bien, Napoléon n'en a cure. Et le matin, il confie à son aide de camp: « Monsieur, vous devriez épouser une Allemande. Elles sont bonnes, naïves et fraîches comme des roses. » Alors, est-ce que le mariage a été consommé ? On n'en a quasiment pas aucun doute. Napoléon est assez empressé. Et finalement, Marie-Louise se montre assez heureuse finalement de cette union, alors qu'elle s'attendait à un ogre corse, comme on lui avait prévu, comme on lui avait annoncé. Eh bien non, les choses se passent assez avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'empressement. Et des deux côtés, je crois qu'on est assez heureux de cette union. Et la cour autrichienne en est assez heureuse également. Alors ensuite, les cérémonies, elles vont se dérouler en deux temps. La première grande cérémonie aura lieu à Saint-Cloud. À Saint-Cloud, c'est l'union civile de Napoléon et de Marie-Louise qui a lieu. L'impératrice est présentée à la cour impériale. Et la cérémonie, tout simplement civile, va avoir lieu avec signature des registres. Et une cérémonie qui est assez simple, avec à l'issue de cette journée une représentation d'Iphigénie en Aulide, donc opéra de Gluck, comme vous en doutez. Et puis le lendemain, le 2 avril 1810, Paris a revêtu ses plus beaux atours pour accueillir cette nouvelle impératrice. Et quand je dis vraiment accueillir l'impératrice dans des meilleures conditions, c'est que à l'époque, vous savez donc que depuis 1805, Napoléon avait décidé de faire élever un grand arc de triomphe place de l'Étoile. Cet arc, il n'en est qu'à ses prémices, puisque les bases seulement sont élevées. Eh bien, pour accueillir la nouvelle impératrice, c'est un peu le hasard des choses, hein, puisque c'est quand même pour célébrer Austerlitz, donc la défaite de son père, François Ier, eh bien, Marie-Louise va être accueillie sous cet arc de triomphe provisoire, puisqu'on élève avec à la fois du bois, du stuc et différents éléments d'ornementation, eh bien, cet arc de triomphe qui va s'élever seulement en 1836, donc 26 ans plus tard, eh bien, les Parisiens et l'impératrice Marie-Louise vont donc un peu apercevoir ce que sera ce nouvel arc de triomphe. Donc elle passe sous l'arc de triomphe, à l'époque on peut passer dessous. Elle passe également, alors là c'est un symbole un peu malheureux, sous la place de la Concorde, la même où sa grande-tante Marie-Antoinette avait été guillotinée. Et puis elle se rend donc dans le salon carré du Louvre qui a été aménagé pour recevoir cette union religieuse avec l'empereur Napoléon, qui lui a revêtu son petit costume de cour, petit costume impérial.
Nous n'avons pas du tout évoqué d'ailleurs la situation religieuse de Napoléon, qui pose peut-être un certain problème, puisque Marie-Louise est une archiduchesse d'Autriche, extrêmement catholique. L'empereur a été marié, le problème de son divorce et de son union avec Joséphine n'a pas facilité les démarches du mariage.
Non, alors le mariage, il a été donc annulé par l'officialité. C'est vrai que ça heurte beaucoup en Autriche, notamment au moment du mariage par procuration, puisque l'évêque qui doit procéder à l'union par procuration déjà se montre un peu réticent. Alors, pour ce qui est de la France, il n'y a pas de problème, puisque Fesch, comme je le disais, va officier au moment du mariage. Et donc, les cardinaux, en revanche, les cardinaux italiens, qui eux refusent à la fois cette nouvelle union, mais surtout le fait que le pape soit prisonnier à Savone, ne seront pas présents. Et donc, une douzaine de faldistoires et de chaises seront libres et montreront l'opposition, finalement, des cardinaux italiens à cette nouvelle union.
Ce qui déplaira fortement à Napoléon.
Et tout à fait.
Finalement, on a l'impression que ces cérémonies du mariage ont été bien acceptées par le peuple.
Elles sont bien acceptées par le peuple, mais elles le sont davantage par les deux cours, à la fois la cour française, même si Marie-Louise se plaint un petit peu du traitement qui lui est fait par Caroline, vous parliez tout à l'heure, dont elle parlera en disant, elle connaît bien le français, évidemment, puisqu'on parle français dans toutes les cours européennes, en donnant ce petit jeu de mots pour Caroline, en disant qu'elle était la mère emptoire. Jeu de mots assez amusant. Mais ce qui est très drôle, finalement, c'est que la cour autrichienne, qui est un peu réticente à offrir cette Marie-Louise en échange, elle va se montrer très enthousiaste parce que Metternich, qui était quand même la cheville ouvrière de cette union avec la France, Metternich va boire à la santé du futur roi de Rome dès l'union consommée. Donc, finalement, on se rend compte de ce changement de mentalité. Et même Schwarzenberg, qui était également un adversaire de Napoléon, va offrir une cérémonie dans son ambassade d'Autriche à Paris, une grande cérémonie, un grand bal, qui aura lieu après le voyage de noces. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que voyage de noces, il va y avoir lieu pour l'impératrice Marie-Louise et pour Napoléon, dans les provinces à la fois belges et hollandaises, parce que Napoléon fait d'une pierre deux coups. Il se présente avec la nouvelle impératrice parce qu'il sait que ces territoires ont été auparavant des territoires autrichiens. Hein, on peut rappeler un petit peu cette histoire. Donc il sait qu'elle va être très agréablement accueillie, et pour cause, c'est ce qui va être le cas. D'ailleurs, Napoléon va en porter un peu ombrage, d'ailleurs. Il va se retrouver un petit peu comme le mari de la nouvelle impératrice. Et à leur retour, et donc, il y a ces cérémonies qui ont lieu à Paris avec feu d'artifice, et donc ce bal qui est offert par Schwarzenberg à l'ambassade d'Autriche à Paris. Et qui va dégénérer parce qu'il va y avoir un incendie qui va se propager assez rapidement. L'impératrice et l'empereur, bien sûr, vont vite évacuer les lieux, mais dans la mêlée, la foule va se piétiner et la belle-sœur de Schwarzenberg va décéder dans l'incendie. Et même un certain nombre de personnes qui, par la suite, vont mourir des suites de brûlures. Donc cet événement va être très durement ressenti, et surtout le symbole que ça représente, puisque, souvenons-nous, on parlait de Marie-Antoinette, au moment du mariage de Louis XVI avec Marie-Antoinette en 1770, eh bien, un bal, une cérémonie avait eu lieu sur la place de la Concorde, et il y avait également un incendie. Donc, on s'imagine que, eh bien, les symboles étant assez forts, que l'avenir de Marie-Louise et de Napoléon peuvent être également assez tristes pour la suite.
Alors, ce mariage aussi fut l'occasion, au niveau des arts, de relancer un peu les industries. Napoléon a vraiment voulu que tout ce qu'il y a de plus beau soit offert à Marie-Louise, que ce soit pour, entre autres, au château de Compiègne, ses appartements ont été complètement réaménagés. Le joaillier Nitto fut appelé. On a vraiment l'impression qu'il a voulu marquer ce mariage sous les signes du somptueux.
Il le fait à la fois pour faire plaisir à sa nouvelle impératrice, sa nouvelle épouse, mais il le fait également pour montrer que les arts, comme vous le disiez, et les artisans français sont les plus importants au monde. Et donc c'est également dans ce but qu'il fait, comme vous le disiez, appel au joaillier, qu'il fait appel également à Biennet pour des nécessaires de voyage, enfin... Tous ces éléments montrent que Napoléon fait beaucoup d'efforts et relance cette industrie également pour montrer à la face de l'Europe que c'est lui qui est bien sûr le personnage le plus important et que les arts traduisent cette puissance à la fois militaire mais également politique.
Alors pour conclure notre émission, cette alliance finalement avec l'Autriche, sur quoi ça va déboucher? Est-ce que ça va durer longtemps ou pas?
Après 1814, Marie-Louise va mourir donc en 1847. Marie-Louise va se remarier deux fois. Une première fois avec Neperg, qui était déjà là au moment de la cérémonie de 1810, et avec lequel elle aura quatre enfants, et puis se remariera ensuite avec Bombelle. Donc elle a une vie assez longue après Napoléon, mais cette union avec l'Autriche va durer seulement quatre ans. Par la suite, on le sait, les choses vont être un peu différentes. Voilà.
Merci infiniment David Chantran pour cette évocation des cérémonies du mariage de Napoléon et Marie-Louise. Et surtout, on a un peu parlé de Marie-Louise, qui finalement est relativement connue auprès du grand public. Merci beaucoup David Chantran. Au revoir à tous et à toutes.